les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Curieux des ondes et amoureux de la radio, bonjour sur Radio Saint-Fé dans les ondes buissonnières. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une émission pilote. Elle s'appelait « Sois belle et crée-toi », elle change de nom, elle s'appellera « Le feu sucré », présentée par Mathias avec la participation de Noé. Ce sera tous les lundis sur Radio Saint-Fé à midi, avec rediff le mardi matin à 8h. Dans cette émission pilote, Mathias invité Martial Duvert, galeriste à Cray. On y parle d'art et on se questionne.
Bonjour Martial Duvert.
Bonjour.
Merci de vous livrer à cette première et nouvelle émission de Radio Saint-Féréol. Cette émission qui s'appelle « Sois belle et tais-toi ». Non, on n'a pas osé. « Sois belle et crée-toi ».
D'accord.
Ce qui est dans une phrase un double hommage, un hommage aux belles femmes de Cray et à la ville elle-même.
D'accord.
Chaque semaine, un thème, un invité en studio et l'inévitable Noé qui se balade dans les rues de Cray pour recueillir les avis des passants. Martial Duvert, vous êtes le propriétaire et le conservateur de la galerie éponyme, la galerie Duvert, qui est située sur le Champ de Mars à Cray et... on y reviendra. Votre galerie a la particularité de n'exposer uniquement que des artistes locaux ou qui ont une attache drômoise. Alors peut-être que pour mieux vous connaître et connaître votre sensibilité de galériste, pouvez-vous nous parler de votre premier émoi visuel, votre premier frisson devant une œuvre d'art et nous dire à quel âge ce frisson a eu lieu ?
Je viens d'un milieu qui n'est pas vraiment fait pour comprendre l'art, un milieu agricole, très religieux. Il y avait une revue qui s'appelait La vie catholique illustrée. Et en page 8 de la revue, il y avait toujours une reproduction d'une œuvre d'art. Et c'était une collection, c'était une manie de collectionner toutes ces œuvres qui arrivaient chaque semaine et que je décortiquais à ma façon. À mon âge de l'époque.
Quand vous disiez décortiquer, vous parlez surtout d'interprétation, non ?
Quand on n'a aucune culture artistique, on se fait ses propres recherches, ses propres critères. On essaie de comprendre pourquoi certains sont restés, d'autres pas. C'était un petit jeu de mon côté.
Très bien. Alors, peut-être, et je vous l'affirme, on a toujours des difficultés à définir ce qu'est l'art. On pourrait se contenter de la définition du dictionnaire qui prétend que c'est, je cite, « le moyen d'obtenir un résultat par l'effet d'aptitude naturelle ». Moi, je trouve ça un peu court. Martial Duvert, comment vous différenciez une œuvre d'art d'un truc qui va finir au pilon et ou alors au fond d'un grenier, et jamais dans une galerie qui ne sera jamais appréciée. Quelle est la différence entre le quelconque et l'art ?
Là, la question est complexe. Il faudrait peut-être parler plutôt d'une opposition entre l'art et l'artisanat. Beaucoup de gens se pensent artistes alors qu'ils ne font que reproduire des choses qu'ils ont déjà vues. Par contre, un artiste interprète des choses et amène quelque chose à l'histoire de l'art. C'est la grande différence. Aujourd'hui, les musées sont à la recherche de la dernière nouveauté. On parle toujours des histoires qui sont nouvelles et qui sont achetées par les musées. Et ça, c'est le grand défi des musées aujourd'hui, de savoir reconnaître. Je pense au musée de Grenoble qui avait un conservateur qui a su repérer Matisse bien avant l'heure. C'est impressionnant. C'est l'État qui a gagné beaucoup d'argent dans l'histoire parce qu'ils avaient un fonctionnaire qui a compris que Matisse était hors du commun et c'est une belle aventure.
Ben alors parlons de vous. Comment vous vous y prenez, vous? Quels sont vos critères, ceux que vous mettez en avant pour opérer les choix des œuvres qui sont exposées à la Galerie du Verre?
Alors, après les noms que je viens de citer, ramenons les choses quand même à leur vraie valeur. On n'est plus du tout dans le même secteur. Bon, moi, ce que j'aime dans la région, c'est qu'il y a une histoire qui est extrêmement complexe. On a des artistes qui sont... qui ont, pour des raisons différentes, la guerre a amené beaucoup de gens dans la région. Picasso a été hébergé à Saint-Donat et Haute-Rive pour rejoindre Aragon et Elsa Triolet. On peut dire que c'est accidentel, c'était pas prévu. En tout cas, Picasso va découvrir le palais du facteur cheval. Il va découvrir la terre qu'il va pouvoir travailler lui-même. C'est tout ce qu'il a fait après à Valoris dans les années 50 était déjà imaginé dans la Drôme pendant la guerre. C'est des belles histoires. On pourrait parler de vol. C'est une histoire exceptionnelle qui peut être risible vu d'aujourd'hui, on pourrait la raconter.
Mais c'est... on va en parler de vol, on va parler d'ailleurs de vos masterpieces, si
d'accord,
je puis dire en bon français.
D'accord.
On en parlera plus tard. Continue.
En tout cas, pour moi, ce qui est important dans le coin, c'est qu'on a des artistes qui ont marqué la région avec brio et qui n'ont pas hésité à... Ils n'ont pas complexé parce qu'ils étaient dans la région. Loin de là, ils sont aujourd'hui dans les plus grands musées. De voir Vols à Beaubourg, ça fait un effet. De voir Vols à la Néo-Galerie à Berlin, ça fait un effet. Moi, je la ramène tout de suite à ces lieux qu'il a arpentés. Et c'est un vrai plaisir.
Écoutez, ce que je vous propose, Martial Duvert, c'est de rentrer évidemment dans le système de notre émission, dans son principe. Je vous propose donc de retrouver Noé. Noé, c'est un petit peu la reine des abeilles de cette ruche qu'est Sois belle et crée-toi. Il sillonne le centre-ville de Cré et il alimente le débat avec ses rencontres fortuites. Noé, je te dis salut à toi. Nous t'écoutons, où te trouves-tu ?
Attention, c'est parti.
Oui, bonjour Mathias. Alors écoute, là je suis devant une boulangerie du centre-ville de Cré, dans la rue principale. Et je suis en face de...
Comment vous appelez ? Masqué, Dominique.
Alors Dominique, est-ce que vous pensez que la vie est une œuvre d'art ou que l'art est en quelque sorte une forme de vie ?
Je pense plutôt qu'on se fabrique sa vie en fonction d'un art qu'on se programme nous-mêmes, quoi.
Mmh. Est-ce que vous avez une vie créative, alors ?
Oui, moi oui, parce que dans mon métier, je crée beaucoup et j'aime ça. Donc, c'est une forme d'art, parce que je fais du carrelage. Donc, je crée...
Vous êtes carreleur ?
Moi, je suis carreleur, donc je crée des choses et c'est une forme d'art.
C'est intéressant. Pour revenir, est-ce que vous pensez que l'art doit avoir des limites ?
Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'art. On peut avoir de tout, tout le monde fait son art à sa propre image.
Et donc, comment vous définiriez un artiste pour vous ?
Tout le monde peut être un artiste. Il n'y a pas de, comment dire, il y a pas de limite à un artiste. Tout le monde peut être un artiste. Dans sa propre imagination, mais tout le monde peut être un artiste.
Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça vous est arrivé de vous trouver devant une œuvre d'art et de vous dire ça, j'aurais pu le faire, c'est dans mes capacités ?
Oui, oui, ça aurait très bien pu m'arriver, oui.
Vous avez un exemple à citer ?
Non, pas spécialement, parce que bon, j'ai pas. Mais il y a des choses que oui, j'aurais pu dire, j'aurais pu le faire.
D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Passez une bonne journée, Mathias.
Merci, à vous aussi.
Il a failli l'appeler Mathias, j'adore. Merci beaucoup Noé. Alors, Martial, ça doit vous inspirer tout ce qui a été dit dans cette courte interview. Un plâtrier peut être artiste, c'est ce qui a été dit. Et puis que finalement, l'art est au fond de nous. J'aimerais entendre votre réaction sur ce petit son de Noé.
compliqué, comme surtout de me poser la question à moi. J'ai envie de dire que quand même, j'ai envie de rattraper les choses dans le sens où l'histoire de l'art est importante et c'est uniquement ceux qui vont apporter une pierre à l'édifice qui vont être retenus. Par contre, l'effet de création et de se sentir artiste, ça, moi, ça ne me gêne pas du tout. Après, tout dépend où est-ce qu'on met la prétention. Quelqu'un qui se pense vraiment artiste contemporain surdoué, c'est autre chose. L'art est à cette capacité à instruire et surtout rendre facile des activités. C'est agréable, ça peut être ludique, extrêmement ludique. Un carreleur qui se pense artiste, j'en connais qui ont. Miro a fait des choses incroyables à la Fondation Miro qui sont visibles aujourd'hui à Barcelone. C'est pas la catégorie de métier qui m'arrête, loin de là. Dans chaque métier, dans la cuisine, on a des véritables artistes, il n'y a aucun problème. Mais c'est toujours l'idée de l'innovation. C'est là où il y a quand même autre chose. L'artisanat, c'est la continuité d'une tradition et l'art, c'est l'innovation. Je crois que la différence est là. Je la ferai là-dessus, en tout cas.
Ouais, c'est assez pertinent. Est-ce que la vie est une œuvre d'art, Martial ?
Je n'ai pas envie de répondre d'une façon très optimiste. Je suis désolé.
ne soyez pas. La parole est libre dans Sois belle écrite.
Parce que l'œuvre d'art a quand même quelque chose de magnifié. Et je suis désolé, la vie n'est pas faite que d'un long fleuve tranquille. Il y a des choses quand même qui sont... Par contre, essayer de l'élever à l'œuvre d'art, ça c'est autre chose. Laisser est autre chose. Moi je suis d'accord dans ce sens-là.
Est-ce que l'art peut être immoral et est-ce que, le cas échéant, s'il devient immoral, il faut le censurer ?
Alors, le temps nous donne facilement des explications. Imaginez qu'en 1880, on allait voir une exposition des impressionnistes et des journalistes zélés disaient... n'envoyez surtout pas des femmes enceintes voir cette exposition, elles pourraient faire une fausse couche.
Oui,
vu d'aujourd'hui, c'est quand même risible. Par contre, peut-être qu'on a inversé les choses. Il y a des artistes qui ont pris les choses à l'envers en se disant, à partir du moment où je choque, je suis dans l'histoire de l'art. C'est aussi un peu plus compliqué que ça.
Oui, je comprends bien ce que vous dites. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont en pâmoison devant un monochrome bleu de Yves Klein ? Parce que ça, comme on l'a entendu dans le micro-trottoir de Noé, ça, tout le monde peut le faire.
Non, tout le monde ne peut pas le faire. Ce bleu était exceptionnel. J'ai eu la chance de connaître Klein. Je peux vous dire que j'ai un respect infini pour Klein. Vu de l'extérieur, je comprends la réaction. Le bleu est exceptionnel. Ouais. C'est un bleu qui est satiné, qui est une nouveauté technologique pour l'époque. Et tous les objets qu'il a retranscrits en bleu sont devenus icônes. Voilà.
Donc vous le dites, vous, Martial Duvert, l'art n'a pas renoncé à sa beauté parce qu'il a renoncé à son académisme.
L'académisme a toujours freiné l'art. Aujourd'hui, c'est compliqué dans les deux extrêmes. Encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on est choquant qu'on est génial. Par contre, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile d'exposer le vagin de la reine devant Versailles. Quand on sait que l'artiste a choisi, il s'appelle Anish Kapoor, il a choisi ce titre uniquement pour choquer. C'est-à-dire que c'est le titre qui a fait qu'en fait l'œuvre devenait scandaleuse, alors qu'elle ne l'était pas plus quand on la voyait. Elle ne faisait penser en rien à un vagin.
La décadence, est-ce qu'elle est esthétique ?
Bien sûr. Bien sûr, les poèmes de Baudelaire le montrent. Il y a des choses magnifiques dans la décadence. Mais c'est le problème, il faut savoir le retranscrire. C'est pas à la portée de tout le monde. Il y a des poèmes qui sont qui montrent des qui laissent imaginer des scènes torrides et qui pour moi sont font rêver, mais je pense qu'à l'époque ça devait quand même faire du bruit.
Enveloppez-moi dans vos rêves, Martial Diver. Alors moi, je vais vous faire un petit clin d'œil à défaut d'être décadent dans votre boudoir. Je vous offre ce clin d'œil parce que lors de notre dernier contact à la galerie du Champ de Mars, la galerie du Vert, votre galerie, vous nous avez accueillis, Noé et moi, sur cette chanson que j'ai beaucoup de plaisir à diffuser ici dans Sois belle et Sois belle, j'ai toujours envie de dire sois belle et tais-toi, alors que c'est sois belle et crée-toi. C'est justement le jeu de mots qui justifie le titre. Écoutez, je suis sûr que vous allez reconnaître.
Encore une histoire qu'on balance, une histoire qui se déhanche. Une histoire qui a pas de chance, une histoire qui a pas de sens, une histoire pire qu'un sale dimanche, une fraction dans l'errance d'un sale monde de France. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui bave, une histoire bien pérave, une histoire de caf pour un peu on se marave, une histoire bien pélange, une histoire qu'on enfonce, une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule.
Tout seul.
Bah putain, voilà, j'en ai marre. On se tourne le dos, on crache son dernier glavio. Tous mes amis m'ont dit que c'était moi, mon pire ennemi. Je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule. Avec plus personne à qui faire la gueule.
J'adore quand on me dit ta gueule. Ça m'oblige à argumenter. Voilà, Martial Duver, c'était Mano Solo, vous l'avez reconnu. Je marche seul. Ce sera notre chanson d'amour à toi et à moi. J'aimerais vous entendre sur l'ancrage local de la programmation des artistes de la Galerie du Vert. Pour préparer cette émission, j'ai lu l'interview sur l'excellent site d'info locale et numérique lebrillant.fr. Vous y évoquiez Jacques Prévert et les enregistrements de l'intégralité de ses poèmes qui ont eu lieu à Chabeuil. Alors, je sais que ma question est tordue, mais est-ce qu'il y a un fil rouge qui réunit les artistes drômois entre eux? Est-ce qu'il y a un esprit artistique drômois proprement dit?
Je crois pas. Surtout, je le cherche pas. Ce serait extrêmement dangereux. Je pense surtout, chacun a sa, si on revient à Prévert, c'est à cause ou grâce à son côté bougon qui va refuser la technique de France Culture et envoyer tous ces gens paître, il n'y a pas d'autre terme, et il se replie sur un des techniciens qui lui propose d'enregistrer ça à Chabeuil puisqu'il a tout l'équipement pour le faire. Et c'est une amitié qui va se créer, c'est un très très beau moment, c'est des gens qui sont sur la même longueur d'onde, et c'est une opportunité, pas plus, comme la guerre va en créer énormément, et je crois que ça c'est intéressant. Peut-être aujourd'hui on pourrait parler d'une école drômoise, comme il y en a eu dans les années juste après-guerre, où le mouvement cubiste qui avait beaucoup baissé et beaucoup déçu des protagonistes. Je pense notamment à Glaize, qui fait partie des gens qui ont inventé le cubisme, mais comme ils étaient trop religieux dans leur théorie, on fait qu'on les a écartés. 1906, c'est l'année de la séparation de l'Église et de l'État. Ils inventent le cubisme et Picasso arrive derrière. Il y a une relation commune entre les deux, c'est Gertrude Stein. Elle dit à Picasso, il y a quelqu'un qui est sur des nouvelles théories. Et là, Picasso va se trouver acculé à sa période bleue, sa période rouge, rose. Et c'est une insulte pour Picasso de se sentir après l'invention du cubisme. Et il va se lancer, lui, il va faire les Demoiselles d'Avignon. Ces gens-là vont se replier sur la Drôme. Glaize à Serrières, c'est juste au-dessus de la Drôme. André Lhote à Mirmande et Vambert à Cré. C'est une très très belle histoire parce que ça fait qu'en fait il y a un mouvement. Là, on ne parle plus de peintre ou d'artiste, on parle vraiment d'un mouvement. Et ça, c'est exceptionnel. Il y a eu Barbizon, il y a eu l'école de Bretonne, il y a eu des choses qui ont marqué des régions. La Drôme pourrait s'enorgueillir de ça. Ça n'a pas été le cas parce que ça a été très très mal développé, très mal expliqué. En tout cas, c'est une réalité pour la Drôme.
Alors, dans la continuité de vos propos, et puisque nous sommes dans le name dropping, c'est-à-dire dans la citation, je vais vous poser la question, mais autrement. Quel est le rapport entre le cubisme van Goghien, si vous me permettez l'expression, de André Lhote, entre Albert Glaize, autre cubiste, mais beaucoup plus tourmenté, Albert Vambert, qui a su rendre la tour de Cré presque palpable, presque accessible. Et puis, en parlant de tourment, on passe au désespoir avec les œuvres qui flirtent presque avec le morbide de Vols. En fait, je vais vous poser la question, est-ce que la Drôme est une muse ?
Une muse, certainement. Pour ces artistes-là, ils découvrent des paysages qui sont infinis, c'est-à-dire que le traumatisme de la montagne Sainte-Victoire pour Cézanne est une réalité pour ces cubistes qui se disent ils n'avaient que ça. Ils se disent on n'a plus à interpréter un seul sujet. Et c'est un petit peu un défi de Cézanne d'avoir uniquement la montagne Sainte-Victoire. Il est à côté, il habite à côté et il va nous en faire une quantité. J'aimerais bien en avoir un, je ne vous le cache pas. Je vous dis ça avec un petit peu de mépris, mais c'est
pas avec de l'envie.
Oui, il faut ramener les choses à leur vraie valeur. Et par contre, ces cubistes ont compris que la Drôme est variée, n'en finit pas de les étonner. Et ils vont faire en fait une multitude de villages perchés vus à leur façon. Alors il faut rappeler une chose pour les cubistes, c'est on a inventé la photo, donc c'est, l'idée de la perspective est dépassée. Il faut inventer nombreuses perspectives pour pouvoir créer le relief. Et ça, la Drôme, de ce côté-là, est infinie.
Infini.
Ah oui, il y a des paysages. C'est les paysages vus par autant par André Lhote que Vambert sont exceptionnels. Il y en a d'autres. Il y a Eisenschitz qui est très très bien représenté. Lui, il vient parce qu'il est juif. Il vient se cacher parce qu'il est juif. Avec Vols, il s'échappe du camp de concentration à côté d'Aix-en-Provence. Ils ont tous été mis là parce qu'en fait ils se sont fait repérer en train de donner un coup de main entre guillemets aux républicains alors que Franco a demandé l'aide à Hitler. Les choses ont été vite réglées et tous ces gens-là, on va les mettre au camp des Milles à Aix-en-Provence. Et c'est là que l'histoire de Vols va commencer. C'est un conte de fées raconté aujourd'hui.
Mais vous comprenez avec moi, Martial, qu'il y a des régions qui ont gagné, j'allais dire en popularité, c'est un peu bête à dire, grâce à leurs peintres. Hein. On ne va pas parler de Van Gogh. Mais pourquoi la Drôme semble être mal aimée ?
Pas mal aimée. Je pense qu'il y a une certaine bourgeoisie qui a défendu certains artistes. je le pense encore aujourd'hui, c'est plus facile de défendre certains. Je ne vais pas les citer, rassurez-vous. Y a des choses qui sont plus faciles à défendre. En tout cas, un Vols, même aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde. On comprend qu'il y a un tourment derrière.
Ah oui.
Et par contre, l'histoire est exceptionnelle.
Racontez-nous là de deux mots.
Ce sera pas deux mots, ce sera quand même un petit peu long. Ce sera, au départ, c'est un musicien. Il est anti-fasciste. Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Il quitte l'Allemagne. Il rejoint Man Ray à Paris. Il va faire les premiers dessins et les premières photos avec lui. Ça se passe pas très bien. Il se dit beaucoup plus efficace à soutenir les républicains. Il faut dire qu'il picole pas mal. Et il va se retrouver en Espagne. On connaît la suite. Franco prend le pouvoir. Donc tous ces gens-là se retrouvent au camp des Milles. Au camp des Milles, il se retrouve avec Max Ernst, Eisenschitz, Segers.
Incroyable.
Et ils travaillent dans une ferme. On leur confie des travaux agricoles. Et ils vont décider de s'évader tous les quatre. Max Ernst est fasciné par Vols qui fait une tache de vin. Il picole, il fait une tache de vin. Et puis il fait un dessin automatique avec cette tache de vin. Il est épaté par ce travail. Ils s'évadent tous les quatre. Max Ernst rejoint le sud de l'Ardèche. Les trois autres seront à Dieulfi. Pendant 4 ans, Vols va échanger des bouteilles de vin contre des dessins. On le prend pour un clodo local, pas plus. Et c'est un maçon qui va venir le faire exposer à Paris à la fin de la guerre. Et là, c'est les Allemands qui vont acheter tous les Vols. Vous allez à la Néo-Galerie à Berlin, vous découvrez qu'ils ont été achetés 6 mois après la fin de la guerre. C'est exceptionnel. Sa femme va l'empoisonner avec un steak avarié parce qu'elle ne supporte pas la notoriété que se fait Vols, et donc ça va finir comme ça. Moi, j'ai eu la chance de faire la succession d'un psychiatre juif qui se cachait à Dieulfi et qui s'était donné pour mission de soigner, de sortir Vols de son addiction d'alcool. En se disant, tu m'apprends à peindre et moi je te sors ton addiction. Au bout de 6 mois, ils picolaient tous les deux. Par contre, ils ont quand même stocké énormément d'œuvres de Vols et donc elles sont exposées régulièrement dans des grands musées aujourd'hui.
Écoutez, ce que je vous propose maintenant, car il séquence l'émission, c'est de retrouver Noé. Alors, je ne sais absolument pas où il est. Géolocalisation, pardonnez-moi pour mes bafouillements. Dans 3, 2, 1, Noé, c'est à toi. Où te trouves-tu, mon frère ?
Oui, Mathias, voilà. Je suis toujours dans la rue principale et je suis en compagnie de Pascal, Louis et Max. Donc, j'ai 3 questions à vous poser. Par exemple, pensez-vous que le notaire, l'avocat, le PDG, bref, que tout le monde en soi a une fibre artistique, chacun à sa manière ?
Moi, je pense que oui, tout le monde a une fibre artistique. C'est la manière de s'exprimer, c'est juste un moyen de s'exprimer. Et je pense que tout le monde a envie de dire des choses, donc tout le monde a une fibre artistique.
Donc pour vous, l'art se rapporte à l'expression, en fait ?
Ouais. Dans toutes ses formes, la sculpture ou... dans la gestuelle, dans notre métier, dans nos passions.
L'art de vivre,
donc.
Vous avez quelque chose à ajouter, Max ?
Pas forcément.
Et vous, à part peut-être vos enfants, si vous en avez ?
Mes enfants sont venus la semaine dernière. Ils sont venus me voir pour ici visiter même la tour de Cray, pour visiter l'art qu'il y avait ici, tous les gens qui nous proposaient des belles choses, on est tous différents.
Excusez-moi, je vous interromps, Pascal. Vous parlez par exemple de la tour de Cré, est-ce que ça peut aussi être considéré comme de l'art ?
Tout à fait. Bien sûr, il a fallu des ingénieurs pour concevoir ça, bien sûr. Même que ce soit une prison, j'en suis conscient, maintenant il faut que ça change. Justement, l'art, on peut la transfulgurer, on pourrait l'attendre.
L'art, architecture.
Donc finalement, l'art est libre à l'interprétation qu'on lui donne, autant qu'à...
Tout à fait.
Et on pourrait dire que l'art est inutile, mais est-ce que vous pensez que l'art sert... À quoi sert l'art, finalement ?
Moi qui connais bien le Louvre, parce que j'ai vécu beaucoup de temps à Paris, à chaque fois que je m'embêtais, il y avait toujours un moment gratuit pour aller visiter le Louvre. Je trouve que l'art n'est pas... Il est là, heureusement, pour être là avec nous. pour nous interpréter. En fait, c'est l'art qui nous interprète.
C'est ça. Je pense qu'on manque de mots des fois et que l'art peut nous est un outil pour s'exprimer. Même si des fois c'est pas utile, ça sert.
L'harmonie.
Bon, il y a beaucoup de mots. Pardon, Noé, je t'ai coupé la parole. Mais merci à toi, c'était un témoignage absolument intéressant. Et Martial Duvert, je cite l'une des parties de ce témoignage. Et là, je ne vais même pas vous demander de répondre à une question, mais simplement de réagir. J'ouvre les guillemets. Parfois, on manque de mots et c'est l'art qui nous interprète.
C'est une réalité pour certains artistes qui ont demandé à cette part de participation du lecteur. C'est intéressant de savoir comment le lecteur peut s'approprier une œuvre. C'est, dans le temps, elle est différente. Aujourd'hui, on voit les sculptures romaines et grecques avec un regard qui est amusé et certainement érotique. Ce n'était pas du tout le cas pour l'époque. Ça donnait d'autres explications. C'est voilà, je vous faites ce que vous voulez de ce que je vous donne. C'est peut-être une pirouette pour éviter de vous répondre crûment, mais c'est une réponse.
D'accord,
c'est la mienne.
C'est en tout cas la vôtre. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, et je rejoins un petit peu la toute première question que je vous ai posée en début d'émission, dans Sois belle et crée-toi, est-ce qu'il vous est arrivé de croiser une œuvre et que celle-ci vous renvoie à cette réflexion, à savoir, voilà, cet artiste me dit ce que je savais, mais c'était enfoui au fond de moi, je ne pouvais pas le verbaliser, cette œuvre est une révélation car elle me révèle.
Je ne le dirais pas comme ça, je dirais, j'ai eu trois chocs artistique dans ma vie, vraiment des chocs. Je peux vous en raconter un si vous voulez.
Ou même les trois ?
Non, je crois que si on veut, ça serait long. Il y en a un qui n'est pas si vieux, il est en Turquie. Je suis convoqué pour la Biennale d'art contemporain à Istanbul. Je vois des kilomètres de toiles où de loin je crois reconnaître un miro. Je m'approche à 2 mètres, je vois un nom turc et une date qui est récente, très récente. Je suis très déçu, je vais un peu plus loin. Ah, c'est un Fernand Léger. Non, c'est un... Au bout d'une demi-journée, j'étais extrêmement déçu. Et on me dit, il y a un off autour de ça, de cet événement. Il y a un off, on me situe une église désaffectée. Il y a un artiste qui travaille là-dedans et qui accepte de me recevoir alors que le vernissage n'est pas encore fait de l'exposition. Et... Il a vécu en Italie, je peux le citer, il s'appelle Francesco Albani. Il est issu d'un couple italien-turc et c'est pour moi, c'est un choc incroyable. Il me raconte. Sa sœur est morte d'anorexie mentale. Toute sa famille est obèse. Et lui, il a voulu, après le choc du deuil, me parler de ce que... Qu'est-ce qu'il voyait de ce monde ? Il va faire des sculptures en cire, extrêmement réalistes. C'est épouvantable d'horreur, mais en tout cas, chaque fois, c'est des corps qui sont vidés. Imaginez quelqu'un d'obèse qu'on aurait vidé, et vous n'avez que la peau qui pend dans une baignoire. Vous avez des jambes où on a sorti la chair et tout pend au bout, et dessus sont empilées des assiettes. C'est toujours un rapport à la bouffe, à la malbouffe. Et il finit l'exposition avec une interprétation de la danseuse de Degas. La danseuse de Degas, il faut savoir une chose, c'est que c'est une gamine qui est prostituée et qu'on a voulu obliger à danser. Elle a une sculpture qui est impressionnante, vue de loin. Elle est très, très attrayante, elle est affrivolante. Vous vous approchez, vous voyez un visage qui respire la douleur. On l'a obligée à maigrir. On l'a obligée à se façonner un corps. Elle est épouvantable de très près. Et il va faire une interprétation qui va être horrible. Et c'est toujours dans ce même état d'esprit, se dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas manger pour se nourrir. On s'empiffre et on ne comprend pas du tout l'objet de notre façon de se ravitailler. Et ce travail-là, pour moi, ça a été un choc. Il y avait longtemps que je n'avais pas eu ce choc-là. J'aurais voulu, en sortant de cette exposition, je me suis dit, j'aurais voulu être l'auteur de toutes ces œuvres.
Là-bas, il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées. Les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre. Mélanger citron vert et rhum Trois-Rivières. Bologne ou la Monie, et oui. C'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi, dis mal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter, frotter et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. C'est le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Pour rester bronzées, elles brûlent sous UV. Toujours fâchées, la fille de la ville. Agressive comme un flic en civil. Y'a comme une odeur de gaz sur les Champs-Élysées. Et des bombes pètent dans le RERD. Ma mère est fatiguée, je la laisse respirer. Je vis de mon côté et tente de subsister. Arrête de rapper, me crie-t-elle toute la journée. Ce n'est pas sérieux, trouve un métier. Fumer, ça donne faim, je suis Arsène Lupin. Je tape AED, même sans les mains. Sur mon canapé, on est moins serré. C'est sûr, certains se sont fait soulever. Je pense aux novices et n'oublie pas mes complices. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Je veux porter des shorts toute ma vie. Avec mon escorte, quitter Paris. Manger du poisson grillé sur la plage du Gosier. Prendre des bains de mer avec le ministère. Mais je me suis noyé, je ne sais pas nager. Les rues sont profondes et mènent tout au boulevard Ney. Comment s'en sortir pour la fille du quartier? Elle croit que pour percer il faut se faire trouer. Certains jouent au foot et veulent devenir pro. D'autres deals et rêvent de kilos. Les seringues mortes se ramassent à la pelle. Sur les trottoirs de la rue La Chapelle. On protège nos fils de tout ce vice. Dans les cours d'école, on ne sniffe plus de colle. Drogue et alcool ont pris le monopole. Ma vie n'est pas simple, elle n'est pas funky. Moi je suis né ici et mon enfant aussi. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici, dans la misère et les cris.
Qu'est-ce que c'est bien, docteur gynécologue? C'est toujours un plaisir de l'écouter. Il est maintenant une question qui me taraude, Martial Duvert, responsable de la galerie éponyme sur le Champ de Mars de Cré. Permettez-moi de vous la soumettre, cette question. Un galériste, c'est quelqu'un qui donc a la responsabilité des choix artistiques, des œuvres qui vont habiller le lieu. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit vendre. Et à ce titre, il doit faire, vous me permettrez la comparaison, un peu le même job que le concessionnaire de chez Peugeot. Il doit raconter une histoire rassurante à ses clients. Expliquez-nous comment vous marchez sur ces deux jambes.
Oh, j'ai envie de dire que pour les expositions, je ne me sens pas l'obligation de vendre. J'ai fait une exposition, je ne vais pas citer le nom non plus, où on n'a pas vendu une seule toile. L'an passé, par contre, on a fait l'exposition de Jean-Pierre Villeneuve, on en a vendu énormément. Ce n'est pas le but des quoi que ça arrive. J'ai la chance d'avoir un métier qui s'étaye sur plusieurs activités. J'ai la vente de livres anciens et livres rares. Donc ça, c'est quelque chose qui fournit un petit peu le carburant journalier de la galerie. Et je peux me permettre de prendre des risques. Là, j'en prends cette année énormément avec un artiste qui travaille sur le carton. C'est Nicolas Zanoneski. C'est pas facile. Le premier abord est pas facile à comprendre. Il faut vraiment rentrer dans le sujet. C'est loin d'être déco. C'est un gars qui a été acheté par Pinault. Aujourd'hui, il est exposé à la Bourse du Commerce à Paris. Il a fait plusieurs biennales. Il a été exposé aussi à la Halle Saint-Pierre. C'est un gars qui s'est installé à Cré. Pour moi, c'était quelqu'un qui était incontournable. Il y en a plusieurs que j'ai repérés comme incontournables à Cré. Même s'il n'y aura aucune vente dans je parle pas de Nicolas Zanoneski parce qu'il y a déjà eu des ventes, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas du tout ce qui me motive. Ce qui me motive pour moi, c'est de pouvoir dire assez fièrement, cet artiste-là, il est passé dans ma galerie. Ça, pour moi, Nicolas Zanoneski dans ma galerie, c'était le plus important.
Hop, voilà, merci. Nous sommes à la radio, nous faisons vivre au mieux nos sentiments, mais nous sommes privés d'images par définition. Or, une galerie d'art est avant tout un exercice visuel. Et avec votre permission, je vais ici livrer mon premier sentiment quand je suis venu vous voir au sein de la galerie. Alors, je vais citer des mots qui peut-être vont éclairer ceux et celles qui nous écoutent. Profusion. En fait, j'avais presque le sentiment d'être dans un cabinet de curiosité.
Parce que vous êtes arrivé à un moment précis où il y avait une exposition sur le design.
Exact.
Aujourd'hui, si vous poussez la porte, c'est tout à fait différent. C'était une exposition sur le design avec des objets de toute provenance. Même si c'était des grands noms, Le Corbusier, Charlotte Perriand et compagnie.
C'est ça, ouais, je me souviens très bien. Ouais.
Il y avait des choses qui faisaient accumulation. Je comprends votre sentiment.
Et vous n'avez pas peur, vous, de vous dissoudre dans la multiplicité ou l'abondance?
Bonne question. Plus j'avance dans l'âge, plus je m'inquiète de la situation.
Vous êtes sérieux?
Oui, tout à fait.
Marcel Duvers, je sais que parmi vos innombrables qualités, il y a celle du narrateur, du conteur. Vous êtes un faux narrateur, mais quand vous êtes lancé, vous adorez ça et vous avez une multitude, que dis-je, une charrette d'anecdotes à nous raconter. Alors justement, faites-le. Une anecdote qui aurait eu lieu entre vous et un artiste drômois, ou celle peut-être du chat d'Iran, parce qu'elle est forte, celle du chat d'Iran.
Elle est compliquée, ça c'est toute ma jeunesse. Je viens d'un milieu extrêmement modeste et je me suis retrouvé étudiant avec une amitié très forte avec le fils d'un galeriste, d'un antiquaire prestigieux à Paris. Il a une boutique juste à côté de l'Élysée. Et j'ai plongé dans ce milieu par accident. Et les week-ends, j'allais aider la famille Perrin, pour ne pas les citer, qui faisait des achats tout azimut avec les moyens qu'on peut imaginer. Et donc, le chat d'Iran venait de commander un escalier en cristal à la cristallerie Baccarat. C'était exceptionnel. J'ai pu descendre cet escalier avant de le démonter, où on descendait les marches avec une note précise. On pouvait repérer où est-ce que vous étiez. Non. Le mélomane pouvait repérer où est-ce que vous étiez quand vous descendez
Un escalier piano.
Oui, exactement. Tout était réglé pour pouvoir entendre ça. Excellent. C'était exceptionnel. Et donc, cet escalier, on l'a démonté à la cristallerie Baccarat parce qu'il était commandé par le Shah d'Iran. Il a été destitué. Khomeini avait pris le pouvoir et donc la commande n'avait pas été payée. Donc c'est l'antiquaire qui a acheté l'escalier et il a monté chez lui à Genève. C'était du côté de mon milieu, c'était quelque chose que je ne pouvais pas fréquenter tous les jours.
Ah bon, vous êtes comme ça, vous?
Je suis malheureusement comme ça.
Vous êtes un peu snob, vous ne fréquentez plus les escaliers en cristal. Dites-moi. Alors, ce que je vous propose, c'est la dernière intervention aussi délicate qu'un rhum au baba. C'est Noé que nous allons retrouver. Je ne sais pas s'il est toujours dans les rues de Cré. Noé, c'est à toi.
Mathias, je te retrouve. Je me suis déplacé de la rue principale pour venir jusqu'au Champ de Mars, de l'autre côté du pont. Et je suis en face de la galerie Martial Duvert, qui est le sujet de notre émission d'aujourd'hui. Et je suis avec Annie, qui vient tout juste de sortir de la galerie. Donc, réaction à chaud. Annie, qu'est-ce que vous avez pensé de la galerie?
C'est très déroutant. Il y a un côté même qui est un peu violent. Mais je crois qu'il faut une certaine habitude de regarder pour pouvoir commencer à apprécier. Parce que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de voir. Comme matériaux utilisés, comme il y a plusieurs parties en fait. Il y a plusieurs parties.
Excusez-moi Annie, je vous coupe, mais c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir sous forme d'art?
Ah, plutôt des choses classiques, hein, des peintres classiques.
Des peintres plutôt académiques.
Oui, tout à fait.
Écoutez, ça tombe bien que vous disiez ça, parce que justement, je voulais faire un rapprochement entre les Christs revisités qui sont exposés dans la galerie en ce moment et la religion. Est-ce que la représentation du Christ, vu qu'elle est un peu toujours la même dans les églises, est-ce que si un artiste crée une œuvre détournée de la figure du Christ, est-ce que pour vous c'est un blasphème ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est une autre façon de voir les choses. Et au contraire, ça peut donner des ouvertures. Parce que c'est déroutant au départ, mais après, il ressort quelque chose. Non, c'est au contraire. Je trouve que ça pourrait... Enfin, moi, ça me plairait beaucoup qu'on puisse les faire figurer différemment.
Je rebondis sur ma question précédente. Est-ce que vous regrettez, en quelque sorte, que les artistes ne soient plus au service de l'Église? C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une contrainte, un code à respecter. Est-ce que vous pensez que maintenant que ce n'est plus le cas, c'est un défaut?
Bon, c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Je ne sais pas vous répondre comme ça. Non, je ne sais pas vous répondre.
Pas d'inquiétude, ce n'est pas grave. On compare souvent les artistes et les créateurs. Dieu, pour revenir à la religion, est le créateur de toutes choses. Est-ce que pour autant, Dieu est un artiste?
Ah oui.
Oui?
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez argumenter un petit peu, donner des petites raisons?
Si on pense que c'est Dieu le créateur, il y a des paysages magnifiques, il y a des choses magnifiques dans la nature. C'est magnifique. Et c'est, même le corps humain, c'est magnifique, c'est une mécanique. Oui, c'est un artiste, oui.
Eh bien écoutez, merci, vous avez eu d'excellentes réponses, très, très, très intéressant.
Bon voilà, c'est vrai que les questions étaient étonnantes, déroutantes, intéressantes, mais sans aller jusqu'à vous demander, oh quoi qu'aller, je ne vais pas me priver finalement, Martial Duvert, je vous voyais à l'écoute de Noé, vous balanciez la tête de gauche à droite quand Annie a dit que Dieu était potentiellement un artiste.
Compliqué comme comparaison, très très compliqué, parce que ça voudrait dire que s'il y a quelque chose de divin, c'est artistique. Et l'inverse, s'il y a quelque chose d'artistique, c'est divin. Je trouve que c'est mal posé le problème. Le créateur ait réalisé un chef-d'œuvre, c'est une chose. Par contre, penser que l'œuvre artistique est absolument divine, moi, ça me dépasse un petit peu. C'est pas mon sujet, ça.
D'accord. Alors, ce qui est peut-être un peu plus votre sujet, c'est la réaction de Annie, celle qui a visité donc votre galerie, la galerie du Vert au Champ de Mars à Cré, qui dit « J'ai trouvé ça déroutant, presque violent ». Qu'est-ce que vous avez à lui répondre à Annie ?
L'histoire est violente. Le problème, c'est pas du tout une attaque religieuse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on peut encore présenter ces choses-là en France, c'est en parlant d'une certaine religion et de ne pas être inquiété de quoi que ce soit. Je voudrais en profiter quand même pour le souligner. Ça, peut-être ça changera dans le temps, mais je trouve quand même agréable de pouvoir présenter un travail comme ça sans être taxé d'anticlérical ou autre, parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et beaucoup de gens peuvent rentrer dans un sujet en se disant « ce n'est pas le cas de cette dame, ce n'est pas ce que je veux dire ». Mais j'ai eu peur en exposant ce travail au départ qu'on fasse un amalgame. En fait, ce gars qui expose ça règle des comptes certainement plus familiaux. C'est-à-dire qu'il a un grand-père qui a imposé des crucifix partout et lui, il réinterprète quand il découvre que dans une boîte de parfum, il va découvrir une croix en dépliant l'emballage. Et c'est dans l'emballage qu'il trouve le message en fait spirituel. Donc c'est là qu'il va faire un travail en se disant on ne trouve plus un langage spirituel aujourd'hui dans la vie de tous les jours, on le trouve dans l'emballage, dans le packaging. Et c'est là où il y a toute la dérision, c'est se dire que ce monde-là a perdu tout sens des valeurs, et c'est dans ce sens-là qu'il travaille, cet artiste. Il travaille sur du carton, du détritus, parce que c'est toujours du carton qui a été utilisé, et c'est un travail qui est vraiment digne de ce nom, parce que c'est pas improvisé, c'est pas quelque chose qui a été imaginé en 5 secondes, c'est toute une vie où il va découvrir que son grand-père est un gourou et qui veut imposer une vision des choses et qui va lui l'accaparer dans toutes ses...
Retranscrire quelque chose de vécu, quoi.
Voilà. Pour certainement sur un plan pour s'en sortir, en tout cas pour s'en sortir.
Ouais. Je change de sujet. Mais ça m'amène à vous parler des ventes et du marché de l'art. Alors, je déteste l'association des deux mots, marché et art. Pourtant, on le sait, des œuvres atteignent parfois des sommes qui sont à la limite de l'obscène. J'ajoute que l'histoire de l'art semble maintenant tellement tournée sur elle-même qu'elle se retourne sur les tags de Banksy, hein, le tagueur de rue. Martial, est-ce que l'art est devenu fou ?
Certainement, il y a des excès qui font sourire. Des sommes engagées font peine à voir. Dans un monde où beaucoup de gens sont dans le besoin, c'est vrai que c'est obscène. Mais à côté de ça, il en résulte quand même une continuité dans l'histoire de l'art. Un Jeff Koons n'est pas à mettre à la poubelle comme on pourrait l'imaginer en se disant c'est tout mauvais parce que c'est commercial, même si ça vaut très cher. C'est pas parce que ça vaut très cher que c'est mauvais aussi. Il faut pas inverser les choses. Là, c'est compliqué comme débat.
Bon, allez, avant d'écouter le dernier morceau de notre émission, je vous pose 3 petites questions et vous répondez par un des deux mots que je vous propose. Vous préférez les dessins de la grotte de Lascaux ou la Joconde ?
La Joconde.
Vous préférez la Joconde ou les dog balloons de Jeff Koons que vous évoquiez à l'instant ?
La Joconde.
Vous préférez Jeff Koons ou un bon barbecue entre amis ?
Ah, c'est hard. J'ai envie de dire Jeff Koons quand même.
Bon, alors là, le morceau que nous allons écouter maintenant et qui va en quelque sorte clore l'émission est un bien nommé, c'est Citizen Cope, ça c'est le nom de l'artiste, et le nom de la chanson c'est Pablo Picasso.
star. She's all in the papers and everywhere I go. People hand me quarters and they pat me on the back. They treat me like I'm famous, I never leave a sign. Cause today can be dangerous, and when the night arrives, the light hits her features and the cars drive by. Just so they can see her, and she never bats an eye. When someone takes a picture and Mr. Officer, if you come to take her, then that means one of us gonna end up in a stretcher. Say, Mr. Officer, if you come to take her, then that means one of us gonna end up in a stretcher. Say.
Nous sommes pour cette dernière ligne droite, c'est un euphémisme. Là, on est devant la ligne d'arrivée avec Martial Duvert de la galerie Duvert qui se trouve au fond du Champ de Mars à Cré. Martial qui a été absolument brillantissime. Tiens, pour terminer, Martial, qu'est-ce que vous diriez aux auditrices et auditeurs de Sois belle et crée-toi pour les inciter à venir vous rendre visite à la galerie?
J'aurais envie de dire de ne pas hésiter à demander des explications.
Ouais.
Pour moi, visiter une exposition et partir en ayant l'impression d'être trop bête parce qu'on n'a pas compris, il n'y a aucun complexe à le dire. Et par contre, la responsabilité du galeriste est engagée. Je trouve que c'est son boulot d'expliquer les choses. On ne voit pas du tout les choses quand elles sont expliquées avec patience. Et donc, on commence à découvrir un univers et on commence à apprécier un univers. Si on vous donne en pâture un travail comme ça qui est très intello et vous n'avez qu'un seul souci, c'est en finir et pouvoir sortir pour prendre l'air, c'est que le galeriste est mauvais.
Waouh, ça c'est retenu. Donc vous vous placez dans le camp des bons. Mais en plus, je le confirme. Non mais Martial, c'est vrai, je vous ai vu en flagrant délit. Vous prenez du temps avec vos invités, vous les chérissez, vous les bichonnez. Et surtout, vous êtes extrêmement pédagogue et ça, c'est tout à votre honneur. Merci. Merci Martial Duvert. Je rappelle que votre galerie polymorphe, généreuse, abondante, s'appelle la Galerie du Vert et qu'elle est située au fond du Champ de Mars, je le disais, à Cré. Merci à ce pirate de l'amour qui est Noé. Merci à Louis qui a su avoir la patience de me guider. Cette émission se nomme Sois belle et crée-toi. Et vous avez compris que serait la Galerie du Vert sans la femme. Tiens, si vous étiez une femme, est-ce que vous aimeriez le même genre d'art pour terminer? Ce sera mon ultime question.
Oh oui, je pense que je ne vois aucune différence dans la vision des choses de mon côté.
L'art n'a pas de sexe. Oui. J'espère à très vite toutes et tous sur l'antenne de Radio Saint-Fé. Voilà, c'était Sois belle et crée-toi. C'était Mathias De Gaël derrière le micro. Et j'espère vous avoir fait passer un temps agréable. Merci à vous.
Dans les ondes buissonnières sur Radio Saint-Fé, vous venez d'écouter l'émission pilote « Sois belle et crée-toi » qui devient le feu sucré sur Radio Saint-Fé tous les lundis à midi, rediff le mardi matin à 8h. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site www.radiosaintfe.com.
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.